Allons devant le Seigneur encore une fois, brièvement. Seigneur Jésus, soutiens-nous. Donne-nous l'énergie mentale qu'on a besoin pour se concentrer, pour entendre, pour comprendre. C'est en ton nom qu'on demande. Amen. Amen. Vous avez vu tantôt un petit peu le survol des sessions. Et vous pourrez admettre avec moi que c'est un peu chargé. Six sessions, dont un atelier d'évangélisation. On peut voir ensemble que ce n'est pas un sprint en fin de semaine, c'est un marathon. Ce n'est pas un effort de quelques minutes, c'est un effort d'attention de plusieurs heures. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais au séminaire. Mais accrochez-vous, on décolle. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de stock, c'est vrai. Il y a beaucoup de stock parce que j'ai tellement de choses que je voudrais vous dire. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de choses, là, réconfortez-vous si vous saviez les choses que j'ai été obligé de ne pas vous donner. Ce que j'ai obligé d'exclure. Mais je vous remercie d'être ici parce que ce qu'on fait, là, c'est vraiment important à mon avis. Parce qu'au Québec, on a besoin d'entendre ces choses-là. Et on fait une petite récapitulation parce que la répétition, c'est le nerf de l'apprentissage. On a vu notre place dans l'univers. Qui est au centre? Dieu. On a vu aussi notre place dans l'éternité. On a un point qui est notre vie et le reste qui est l'éternité. On ne veut pas investir juste pour la vie ici maintenant. On veut investir pour les choses qui comptent dans l'éternité. On est dans le portique de l'éternité. On ne veut pas faire des investissements qui vont être futiles dans l'éternité. Et si on fait un retour sur notre dernier temps ensemble qu'on a eu tantôt, qu'est-ce qui est le secret le mieux gardé de l'enfer? C'est Galates 3:24. La loi, c'est comme un professeur, un précepteur pour nous conduire à Christ, pour nous montrer notre besoin d'avoir un sauveur. Et si on annonce un évangile sans la loi, comment est-ce qu'une personne peut comprendre sa perdition? Comment est-ce qu'elle peut être sauvée? Et pour un être humain, il n'y a pas de question plus importante que où est-ce qu'elle va passer l'éternité? C'est la question. Et là maintenant, on va se parler encore plus sérieusement. On va regarder ensemble, on pourrait dire, la question de la vraie et la fausse conversion. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous ceux qui disent être sauvés qui sont sauvés. Et qu'est-ce que vous diriez de ceci? Ce n'est même pas tous ceux qui pensent être sauvés qui sont sauvés. On va discuter de quelque chose d'important et de sérieux. Rappelons-nous du sondage dont on avait parlé. Un grand nombre de ceux qui font profession de foi ne tiennent pas dans des églises plus d'un an, un vingtième. Mais la chose qui est vraiment importante à réaliser, c'est que certains tiennent dans des églises. Il y en a plusieurs qui ne désertent pas et qui sont dans des églises, qui sont suivis, encadrés dans une église locale, ils sont entourés d'une bonne vie sociale. Ils demeurent au sein de l'Église locale avec l'assurance du salut, mais même là, c'est possible qu'il n'y ait aucune preuve réelle de leur salut dans leur vie. Et cette grande tragédie-là, elle s'est passée à cause du fait que dans beaucoup de cas, l'Évangile en entier n'a pas été prêché. On n'a pas suivi l'exemple de Jésus d'apporter la loi aux orgueilleux et la grâce aux humbles. Chaque fois que vous voyez Jésus s'approcher d'une personne fière et arrogante, avec quoi est-ce qu'il l'aborde? La loi. Il lui met des obstacles devant lui. Tu veux me suivre? Savais-tu que je n'ai pas un endroit où je peux reposer ma tête? Savais-tu qu'il faut que tu abandonnes père, mère, famille? On dirait que Jésus n'était pas vraiment un bon évangéliste. Hein? Voici toutes les raisons pourquoi tu ne devrais pas me suivre. Pourquoi ça va être difficile pour toi? Jésus mettait la loi devant les cœurs durs. Avec la loi, il casse les cœurs durs pour ensuite, avec la grâce, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière-là? C'est parce qu'il était toujours, il faisait toujours ce qui était agréable au Père. Et le Père voulait qu'il annonce tout le message de l'Évangile, pas simplement une partie. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Jésus faisait la même chose. Charles Spurgeon disait, « Ils n'accepteront jamais la grâce à moins qu'ils ne tremblent devant une loi juste et sainte. » On a besoin de trembler devant une loi juste et sainte. George Whitefield disait, « C'est la raison pour laquelle nous avons tant de conversions champignons. » Et par conversion champignon, il voulait dire un champignon qui pousse durant la nuit, que le lendemain matin est disparu à cause du sol pierreux dans lequel il est. Le sol n'a pas été labouré par la loi de Dieu. Une illustration. Admettons que tu sois un amateur de sport extrême. Kayak de rivière, t'aimes l'adrénaline, mais ton père n'est pas très fou de ça et il t'a souvent déconseillé d'aller dans une telle rivière qui est très dangereuse. Mais toi, tu en fais à ta tête, tu vas avoir un bon rush d'adrénaline et tu vas dans cette rivière-là, et elle est très agitée cette journée-là, et un demi-kilomètre plus loin, c'est une chute. Mais toi, tu voulais avoir le rush de la vague. Et malheureusement, tu renverses et tu es emporté dans le courant et ton père qui était dans le coin, regarde ça, c'est pas trop nager, mais saute à l'eau et nage comme il peut, patauge comme il peut, va te chercher, te ramène sur le bord et réussit à te placer sur le bord assez pour que tu puisses t'agripper. Mais lui, étant fatigué, sachant pas trop nager, est emporté dans le courant et tombe en bas de la chute, se retrouve sur les roches en bas, dans le coma. Il est apporté à l'hôpital, à l'urgence, et finit par survivre à ça. Qu'est-ce que tu penses que va être ton attitude quand tu vas voir ton père qui t'a sauvé de la mort certaine, d'une mort probable, et a presque payé de sa vie, quand tu vas aller le voir? Qu'est-ce qui va être ton attitude? Est-ce que tu vas être attristé de lui avoir désobéi? Tu vas voir les conséquences sur sa personne. Tu le vois qui vient de sortir d'un coma. Est-ce que tu serais reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu penses que ça changerait ta vie d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça changerait ta façon de voir ton père? Est-ce que ça changerait ta façon d'agir envers lui? Peut-être que tu sentirais que là maintenant, tu as une dette envers lui. Non seulement il t'a donné la vie, mais il t'a racheté. T'as donné une autre vie. Romains, chapitre 7, verset 4. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière, de l'appartenance à Satan, à l'appartenance à Dieu, il va avoir un changement dans sa vie, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Le véritable croyant va être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie et il va avoir un changement, il va avoir un changement radical. Si on est fondé et enraciné en Jésus-Christ, il va avoir des changements évidents dans la vie. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible parle de fruits? On parle à ce moment-là d'une vraie conversion. Une vraie conversion produit des fruits. Premièrement, un fruit qu'on voit dans une réelle conversion, c'est la repentance. La repentance. Zachée, quand il est venu au Seigneur, il a fait plus que verser des larmes. La repentance de Zachée a atteint son portefeuille. Et ça, quand le portefeuille est atteint, on est allé vraiment profond dans la vie d'une personne. La repentance affecte jusqu'au portefeuille. Il a dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le quadruple. » Le portefeuille avait été atteint. Il connaissait la loi de Dieu, c'était un juif, il savait, et c'est ce qui l'a conduit vers le Seigneur Jésus. J'ai entendu parler d'un article dans le journal où, il y a quelques années, il y avait un sac en papier brun qui avait été trouvé devant la porte d'un magasin un lundi matin. Et dans le sac, il y avait un pantalon accompagné d'une note. La note disait ceci, « J'ai volé ceci chez vous vendredi. Je suis devenu chrétien dimanche. Voici le pantalon aujourd'hui. Je suis désolé. » La nouvelle vie dans cette personne avait fait une différence et elle a voulu rendre ce qu'elle avait volé. Ça, c'est le fruit de la repentance. Ça affecte concrètement. Moi, ça s'est passé avec un drapeau. J'avais volé un drapeau. Et le Saint-Esprit me hantait et me faisait comprendre que je devais aller demander pardon et restituer. Il m'a amené là, à sa gloire. Deuxièmement, la repentance, c'est quoi le fruit d'une vraie conversion? Et deuxièmement, des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et 10, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, tout le monde comprend bien ça. Sauf qu'une fois sauvé, on a été sauvé pour de bonnes œuvres. Il va avoir des œuvres, des bonnes œuvres, comme fruit de la conversion. Pas comme cause de la conversion, mais comme fruit de la conversion. Jésus disait que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les hommes doivent voir quoi? Nos bonnes œuvres. Et c'est ça qui va en partie les amener à glorifier Dieu qui est dans les cieux. Troisièmement, un autre fruit, la gratitude. Notre jeune homme, avide d'émotions fortes, dont on a parlé tantôt, est-ce qu'il va avoir de la gratitude envers celui qui l'a sauvé de la mort? C'est clair. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Colossiens 3, 15, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » C'est juste normal d'avoir être reconnaissant qu'on a été sauvé de la mort éternelle. Merci, merci Seigneur. Je ne pourrai jamais te dire assez merci. Quatrièmement, le fruit de l'Esprit. Galates 5:22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la vie? Est-ce que avant et après, c'est copie conforme? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie de celui qui est venu au Seigneur de différent d'avant? L'Esprit qui produit des changements. Cinquièmement, le fruit de la justice. Il devrait avoir un désir de faire ce qui est bien dans la vie de la personne. J'ai été sauvé de quoi? Du péché. Et je suis sauvé pour quoi? La justice. Je suis sauvé pour faire ce qui est bien. Rappelez-vous, dans Matthieu, chapitre 3, verset 10, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera coupé et jeté au feu. » Ce n'est pas comme peut-être, ce n'est pas comme accessoire, ce n'est pas comme optionnel. La nouvelle créature doit porter des bons fruits, des bonnes œuvres. On va aller dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 3, et on va avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui nous amène à voir le bon fruit, le vrai fruit, la vraie conversion. Et dans ce passage-là, Marc, chapitre 4, verset 3, c'est la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner. Les versets vont quand même passer en avant. Jésus dit « Écoutez ». Et quand, dans la parole de Dieu, on entend « Écouter », c'est que là, Jésus, il veut dire « Ce que je vais dire, c'est important ». Donc, Jésus dit « Écoutez ». Un semeur sortit pour semer. Et au verset 4, Marc 4, chapitre, verset 4, « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et là, Jésus va leur expliquer. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? » Verset 14, explication de la part du Seigneur Jésus. Ça, c'est merveilleux. C'est lui qui l'explique. Mon travail est facile ce matin. Verset 15, « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il attire l'attention ailleurs, c'est terminé. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Autrement dit, ils n'étaient pas enracinés en Dieu. Comment? Par une relation intime avec lui, la parole, la prière, la communion fraternelle. Ils n'étaient pas connectés à la vie de Dieu. Et aussitôt qu'une épreuve est venue, ils ont été arrachés. Verset 18, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » On parle de quoi? L'amour du monde. J'ai trop aimé le siècle présent pour m'attacher à Dieu. Et j'ai abandonné le Seigneur. Verset 20, « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30 60 et 100 pour 1. » À mon avis, le verset 13, c'est un passage clé pour comprendre les paraboles. Jésus dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous donc toutes les paraboles? » Autrement dit, la parabole du semeur, c'est une clé qui ouvre un petit peu l'intrigue ou le mystère des paraboles. Ce qu'il faut comprendre de la parabole du semeur, c'est que elle illustre les vraies et les fausses conversions. Qu'est-ce qu'on voit? L'auditeur au sol pierreux, c'est quoi? Une fausse conversion. Ça n'a pas duré. L'auditeur au sol des épines et des ronces, c'est quoi? Une fausse conversion. Ça n'a pas duré. L'auditeur de la bonne terre, c'est quoi? Une vraie conversion. Deux fausses conversions, une vraie conversion. Si on compare ça à d'autres paraboles, par exemple, la parabole du bon poisson et du mauvais poisson qui étaient toutes pris dans le filet et qui va être trié à la fin des temps. Fausse conversion, vraie conversion. La parabole des vierges folles et des vierges sages. Fausse conversion, vraie conversion. La parabole de l'homme qui a bâti sa maison sur le roc et celui qui a bâti sa maison sur le sable. Vraie conversion, fausse conversion. Donc, plusieurs des paraboles sont une illustration de la part de Jésus pour montrer c'est quoi la vraie foi et la fausse foi. La foi qui sauve, la foi qui perd. Vraie conversion, fausse conversion. Et l'Église est remplie de gens qui entendent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Il n'y a pas la vie de Dieu en eux. Ils n'obéissent pas à la parole, ils n'ont pas le désir de le faire, ils n'évangélisent pas, il n'y a pas de transformation dans leur vie. Vraie conversion ou fausse conversion? À quoi ça ressemble une fausse conversion si on met ensemble ce qu'on a vu? Matthieu chapitre 13 et Marc 4 sont deux passages qui nous parlent de cette parabole-là des sols. Et si on met les deux ensemble, on voit que le premier sol, au fond, lui, il ne s'est rien passé. On ne parle même pas de conversion parce que Satan est tout de suite venu y prendre la semence. Autrement dit, tu es en train de parler du Seigneur à une personne, le bébé se met à pleurer, la personne dit « Ah, je m'excuse, je suis obligé de m'occuper de mon enfant » puis ça finit là. Hein? Mais le deuxième sol et le troisième sol, le sol pierreux et le sol avec les épines et les ronces, eux sont la fausse conversion. Et on va regarder ce que ça donne, une fausse conversion. Premièrement, dans une fausse conversion, souvent on voit des résultats immédiats. Marc 4, verset 5 dit « Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt. » Donc la personne, tout de suite, elle répond. Elle n'a même pas eu le temps d'entendre les faits, la loi, sa culpabilité. Où c'est que je signe? Où c'est que je signe? Je veux savoir tout de suite. Dis-moi là tout de suite. Elle n'a pas eu le temps de prendre conscience de son péché, de sa culpabilité. Elle accepte tout de suite. Oui, je veux. Des résultats immédiats, mais qui ne durent pas. Deuxième aspect d'une fausse conversion, pas de racine. Il n'y a pas de racine. Marc 4, 6, quand le soleil parut, elle fut brûlée et elle sécha. Faute de racines. Et c'est ce qu'on parlait tantôt. Il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y a pas de désir pour Dieu, désir de le connaître. Il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'amour pour la parole de Dieu, de recherche de la vérité, il n'y a pas de dépendance de Dieu dans la prière, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'amour pour les frères. Et aussitôt qu'une épreuve arrive, la personne disparaît par la porte en arrière. Combien de fois on a vu ça? Un troisième aspect, la joie superficielle. Une joie. On voit ça au verset 16 dans Marc 4. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Et oui, il y a une joie du pardon, une joie du fardeau enlevé, mais ça suit la tristesse à salut qui nous amène à une repentance dont on ne se repent jamais. Il doit y avoir une tristesse qu'on a offensé Dieu, qu'on a transgressé ses commandements, qu'on a été rebelle, qu'on l'a méprisé, qu'on n'en a fait aucun cas, le Dieu de l'univers qui nous a donné la vie. Il doit y avoir une tristesse. Mais pour eux, c'est tout de suite une joie. Il n'y a pas eu prise de conscience de la loi, des commandements, de la culpabilité devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une joie tout de suite. Un quatrième aspect, c'est que la foi est temporaire. Elle ne dure pas. Luc 8, verset 13, on voit qu'il croit pour un temps et succombe au moment de la tentation. Il croit pour un temps. Et ça, c'est l'aspect un peu plus difficile parce que pour un temps, ils croient vraiment. Ils sont là, assis aux côtés de vous dans l'Église, et si vous leur demandez « Est-ce que tu es sauvé? » Qu'est-ce qu'ils vont répondre? « Oui, pour un temps. » Et après, ils abandonnent. Ils font une véritable expérience de fausse conversion. Et ça, c'est tough, parce qu'on ne voit pas les cœurs. On ne voit pas les cœurs. Donc, on réalise que dans l'Église, il y a des personnes qui parlent tout le bon langage et qui vont seulement être là pour un temps. Ça devrait un petit peu changer la façon dont on agit dans l'Église, dont on interagit les uns avec les autres. Pas qu'on commence une culture de suspicion, puis de « est-ce que tu es un vrai, toi? Est-ce que tu n'en es pas un? » C'est pas ça. Mais si Dieu nous montre des signes qu'un frère, ou que même moi-même, les fruits ne sont pas là. Il faut réfléchir et être prêt à ne pas mettre la tête dans le sable, mais regarder les choses en face, agir en conséquence. Un cinquième aspect, c'est pour une fausse conversion, on va souvent voir des ronces, des épines. Donc, les ronces, les épines, les gens entendent la parole, mais les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole, la rendent sans fruit. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la vie? Est-ce qu'on voit une attirance à toutes ces choses-là? Est-ce qu'on voit une paralysie par rapport à ces choses-là? La personne, finalement, abandonne la foi parce qu'elle aime le monde davantage. Elle est constamment attirée vers le monde. Et ce n'est pas à dire qu'une personne qui est sauvée n'a jamais de lutte. Mais c'est quoi la direction générale de la vie? Est-ce que c'est constamment, regarde en arrière, puis mais... Donc, est-ce que vous voyez pourquoi, quand on regarde Jésus évangéliser, c'est la loi aux orgueilleux et la grâce aux humbles? Il veut labourer le sol du cœur dur pour pouvoir semer la semence de la grâce de l'Évangile et qu'il y ait un vrai changement, une vraie conversion. Et une des grandes tragédies de la fausse conversion, c'est que la personne est là dans l'Église et elle va être suivie par quelqu'un et elle ne porte pas beaucoup de fruits. Et là, vous la prenez et vous la tenez par le fond de culotte et vous l'apportez et vous l'encouragez à venir aux réunions et vous la forcez presque et constamment vous lui téléphonez et vous vous sentez responsable parce que c'est vous qui l'a amené au salut et là vous ne voulez pas qu'elle abandonne et vous faites des efforts et vous passez 6 mois et 1 an à la suivre et aussitôt vous baissez un peu les bras, vous voyez qu'elle ne porte pas sur ses jambes et vous continuez de la tenir et vous vous essoufflez et il y a plein de besoins autour et vous êtes occupé avec cette personne-là et vous entretenez dans son cœur une illusion qu'elle a la vie de Dieu en elle tandis que c'est vous qui la tenez. Et si cette personne-là se présentait dans l'éternité et que le Seigneur lui disait « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu » et que vous étiez là à côté d'elle et qu'elle vous regardait, qui vous disait, tu ne me l'as jamais dit. Tu ne me l'as jamais dit. Je suis un faux. Tu ne me l'as jamais dit. Est-ce que j'aimerais porter ce fardeau-là? Est-ce que ce ne serait pas, Seigneur, donne-moi le discernement pour accompagner cette personne-là comme je dois le faire? Avez-vous remarqué que Jésus, quand les gens venaient à lui, « Seigneur, je vais te suivre partout où tu vas aller. » Il ne disait pas « Bienvenue, viens-t'en ». Il disait « Hey, savais-tu que je n'ai pas un endroit où reposer ma tête, contrairement aux animaux des champs? Savais-tu qu'il va falloir que tu abandonnes père, mère, enfant, que tu me préfères, sinon tu n'es pas digne d'être mon disciple? Savais-tu que tu ne pourras pas regarder en arrière, sinon tu n'es même pas digne d'être mon disciple? » Il barrait la porte, presque, aux gens. Il mettait ça dur. Pourquoi il faisait ça? Tu es un mauvais évangéliste? Il voulait que la personne manifeste sa foi tout de suite. Pourquoi est-ce qu'à la Syro-Phénicienne, Jésus ne lui a pas parlé pendant 3 fois? On dirait, « Hey, manque de sensibilité, tu manques de compassion, envoie et retourne aux études, toi là. Retourne à la formation. » Il voulait susciter sa foi, il voulait faire des pas de foi et de continuer d'aller de l'avant vers Jésus. Il ne voulait pas avoir besoin de la porter et de lui donner l'illusion qu'elle était sauvée. Ray Comfort dit à un moment donné qu'un de ses amis est venu le voir après avoir entendu une prédication comme celle-ci. Il lui avait dit, « Ray, écoute, tu parles des fruits de l'esprit et sur les 9 que tu as mentionnés, il y en a 8. Je pense que je ne les ai pas. » Et là, ils ont jasé, si c'était vraiment le cas. Et effectivement, sur 9 fruits, il y avait 8 qui étaient à peu près absents. Et là, Ray lui dit, « Ben écoute, c'était un de ses bons amis. Il dit, écoute, sur ce que tu me dis là, moi, j'ai aucune espèce d'idée que tu sois sauvé. » Et il dit que son ami À ce moment-là, il a exercé le seul fruit de l'esprit qu'il avait, c'était la maîtrise de soi, parce qu'il a eu envie de l'étamper. Mais il dit que cet ami-là est retourné chez lui et qu'il a réfléchi à ce qu'il avait entendu et que deux semaines plus tard, il est revenu à l'église et là, il était vraiment sauvé. Et il a pu être utilisé dans un ministère d'évangélisation, contrairement à avant où il était là et il réchauffait le banc. Il était un corps mort. Mais maintenant, le Seigneur avait pris contrôle. Pourquoi? Parce qu'on avait eu le courage de regarder en face les choses. Il ne faut pas qu'on se conte des histoires, même dans l'Église. Et Ray Comfort raconte une autre illustration de ce qui lui est arrivé personnellement. Lui était sur le staff d'une église, d'une grande église, où il y avait plusieurs pasteurs, plusieurs co-ouvriers. Le pasteur principal s'appelait Peter Morrow. C'était un homme de Dieu, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Et un jour, Peter Morrow était en train de dormir chez lui. 3 heures du matin, quelqu'un frappe à la porte. Un de ses fils, qui était rendu presque adulte, vient répondre à la porte. Et un monsieur dit, « Faut que je parle à ton père. » Et ce monsieur-là était visiblement en détresse. Donc, le jeune homme, connaissant le cœur de berger de son père, dit, « Un instant, je vais aller parler à mon père. Vous pouvez attendre ici. Venez au salon. » Fait que le monsieur va s'asseoir au salon. Et le jeune homme monte en haut pour demander à son père s'il voulait venir voir ce jeune homme. Le père se lève, descend. Comme il arrive dans le cadre de porte pour arriver dans le salon, une machette de 35 cm s'abat sur lui, lui tranche la gorge, lui coupe les mains. Et ce monsieur-là était en train de vouloir le tuer avec une machette. En entendant les cris, le fils est descendu et son frère est descendu. Et là, ils ont vu leur père qui gisait dans son sang, l'homme là avec la machette dans les mains, et ils ont sauté sur le gars. Ils pensaient qu'ils avaient tué leur père, et eux-mêmes ont pas assez proche de tuer le gars. Finalement, ils ont appelé la police, le gars a survécu, le père a survécu, mais il s'en est jamais remis. Il a été affecté, je dirais, émotionnellement par cet événement-là, et il est resté affecté de ça. Il s'en est jamais remis. Il a survécu, mais sa vie a été transformée. Et le lendemain de cet événement-là, Ray Comfort reçoit un coup de fil d'un autre pasteur qui lui demande, « Ray, est-ce que tu as entendu parler de ce qui s'est passé avec le pasteur de ton église? » Ray dit, « Bien sûr, qu'est-ce que tu penses? » Il dit, « C'est terrible. » Il dit, « Tu sais pourquoi, Ray? » « Non. » « Le gars qui a fait ça, il vient à mon église. C'est un membre de mon troupeau. » Et là, il lui dit quelque chose. Il lui dit, « Hey, c'est incroyable qu'un chrétien puisse faire une chose comme ça. » Ray lui dit, « Je m'excuse, un chrétien? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un peu un manque d'amour, quelqu'un qui veut tuer un pasteur, qui veut le décapiter? » Un exemple extrême. Je veux dire, on ne peut presque pas imaginer, mais le gars pensait vraiment que ce gars-là, c'était un chrétien. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a peut-être pas de vie. Est-ce qu'on va donner le statut de chrétien à tous ceux qui se nomment chrétiens? S'il n'y a pas de vie, est-ce que ça se peut qu'il n'y ait pas de vie? Donc, on a regardé les caractéristiques de la fausse conversion. On va regarder brièvement les caractéristiques de la vraie conversion. Si on regarde Matthieu 13, verset 23, trois choses, très brièvement. Le vrai converti, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entend, il comprend la parole et il porte du fruit. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'enseigner la loi de Dieu, les commandements de Dieu et le péché, la culpabilité du péché, parce que c'est de ça qu'on se repent. C'est de ça qu'on se détourne. On se détourne du péché pour se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est ça la repentance, la vraie conversion. Et c'est possible que si on ne parle pas de ces choses-là, il y ait comme une repentance horizontale. Une repentance horizontale, « Ah, ben c'est ça, j'ai volé un tel ou j'ai parlé mal à un tel. » Mais il n'y a pas de prise de conscience que la personne a offensé Dieu. Et ça, c'est tellement capital. Quand David a péché avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre toi et contre toi seul. Le fils prodigue, quand il s'est converti, il a dit quoi? J'ai péché contre le ciel. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a péché contre Dieu. Dwight Moody disait, c'est pourquoi Dieu nous a donné la loi pour nous montrer nos vraies couleurs, nous montrer qui on est vraiment. Comment est-ce qu'on peut prêcher l'Évangile en vue de vraies conversions comme Jésus faisait la loi avant la grâce? La loi aux orgueilleux, la grâce aux humbles. Et on va regarder une troisième fois comment est-ce que ça se fait en pratique. On va regarder l'entrevue qu'on a eue avec Jean-Michel. Face à face avec Jean-Michel.